Radio Libertaria 89.4.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio
Libertaria
89.4.
Radio Taharruri 89.4.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Retranché derrière ses valises, dans une chambre d'hôtel, de peur de retrouver son corps, son corps au fond de la baignoire. Sa vie qui passe avec le temps, la vie ne coule qu'une fois seulement, une fois seulement. Dans le miroir, reviennent des moments de bonheur. Qui ont la pureté du diamant, du temps, elle voit ses yeux qui se regardent, seuls les yeux ne vieillissent pas. Visage vieilli, évidemment. Comment faire pour accepter ça? Que la vie coule une fois, pas deux. Jeune dans le miroir, et par miracle l'être toujours. Ou sinon casser le miroir, être frappé de cécité, et dans le noir pouvoir encore imaginer, rêver, aimer. Thank you.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme presque chaque mercredi de 9h30 à 10h30. Et nous sommes deux aujourd'hui. Bonjour Sylvie.
Bonjour Denis.
Et nous allons parler... Nous allons évoquer le placement volontaire involontaire.
Oui, non, c'est ça.
Involontaire. Bon, c'est à travers un commentaire du livre de Alexandre Massé-Dubois à en devenir fou. Dans la peau d'un schizophrène, c'est le récit d'un journaliste infiltré en hôpital psychiatrique. C'est aux éditions Phébus. Il y a le Parisien qui en consacre un court article. Au mois d'octobre dernier. C'est une prison. Se faisant passer pour fou, ce journaliste a passé une semaine dans un hôpital psychiatrique. Diagnostic expéditif, surmédication, en immersion durant une semaine dans un établissement psychiatrique parisien, le journaliste Alexandre Massé-Dubois a constaté les dysfonctionnements du système et raconte son expérience dans un ouvrage. Jeanne, Richie, Claude, Jeanne, Mido, Ahmed. Pendant une semaine, le quotidien d'Alexandre Massé-Dubois a tourné autour de ces « entre guillemets » fous. Tout comme lui, ses patients étaient enfermés dans un hôpital psychiatrique parisien. Mais à la différence de ses camarades d'infortune, le journaliste indépendant de 32 ans s'y était laissé interner en simulant les symptômes d'une maladie mentale pour les besoins d'une enquête dont il a tiré un livre « À en devenir fou dans la peau d'un schizophrène » aux éditions Phébus. Paru donc le 5 octobre. Alors, pourquoi on a voulu parler de ce livre ?
C'est toi qui me l'as conseillé, même si tu ne l'avais
pas
lu.
Tout à fait.
Alors, moi, je l'ai lu. Oui, j'ai lu et j'ai mis des marque-pages, t'en ai parlé, j'ai mis des marque-pages aux passages qui me semblaient les plus significatifs, puisque je pense qu'après chaque passage... on pourra faire des commentaires et je pourrai raconter ma propre expérience d'enfermement comme ça, volontaire, qui est devenue involontaire. Car faut le dire, il le dit au début, il existe une loi qui en réalité permet aux médecins de t'enfermer le temps qu'il veut, si ça lui prend. Voilà, c'est-à-dire que même si tu es venu volontairement, et ça par exemple, j'étais pas du tout au courant, et bien même t'es venu volontairement et on te jure que tu sortiras si tu veux et puis en fait j'ai menti c'est vraiment tu te retrouves dépouillé de tes affaires, de enfermé à triple tour et devoir vraiment te rappeler tes cours à l'Actor Studio pour pouvoir arriver à te tirer de ce merdier quoi.
Ou surtout en pyjama en fait.
Oui. Et puis pas ton sac on te l'a pris, t'es enfermé techniquement d'un point de vue pratique, t'es enfermé, ouais. Tu peux pas sortir.
Et on te dit pas pour combien de temps.
Non. Et c'est très effrayant. Et donc il en parle un peu à la fin sur la peur quelle stratégie il va pouvoir trouver. Et je fais juste une parenthèse, c'est par rapport à un auteur que j'aime bien, même si je partage pas toutes ses idées, mais c'est Vaslavik, qui dit dans un de ses bouquins Changement, qu'il a une astuce pour ça, qu'il suggère, qui paraît-il marche des fois. Il faut repérer un jeune interne qui est avide de réussite professionnelle. Tu simules un symptôme très spectaculaire et tu lui laisses entendre, enfin après tu l'arrêtes et tu lui laisses entendre que c'est lui qui t'a guéri. Et donc, tout fiero de pouvoir étaler cette guérison, tu as une chance de pouvoir te sortir de là. Voilà.
Alors, pourquoi on a donc choisi ce livre? Bon, bah, pour la raison que tu as évoquée, puis aussi un peu bah, par son contenu qui est un témoignage, en quelque sorte. Hein. Alors, je peux lire un premier extrait. Bon, quand on est journaliste, on pourrait faire des reportages sur d'autres trucs. Pourquoi il a choisi l'hôpital psychiatrique? La référence en matière de journalisme, écrit-il, de journalisme undercover, sous couverture, journalisme d'infiltration, ou encore journalisme gonzo, est Günter Wallraff. Au début des années 1980, il s'est fait passer pour un travailleur turc afin de raconter les conditions de travail épouvantables réservées aux immigrés en Allemagne. 25 ans plus tôt, l'américain John Howard Griffin avait, lui, assombri la pigmentation de sa peau pour relater et dénoncer la condition d'une personne noire dans le sud des États-Unis. Mais l'infiltration la plus fascinante et la plus proche de celle que je m'apprêtais à tenter, écrit l'auteur, était sans nul doute celle de Nellie Bly en 1887. La journaliste du New York World, propriété du célèbre Joseph Pulitzer, se fit hospitaliser 10 jours à l'asile de Blackwell's Island et révéla le quotidien dramatique des patientes, parfois internées sans raison. Son investigation eut un tel retentissement qu'elle fut suivie d'une enquête du grand jury de New York. La gestion des hôpitaux de Blackwell's Island fut pointée du doigt puis remaniée selon les recommandations de la reporter. La commission des budgets de la ville octroya $1 million de fonds supplémentaires, soit l'équivalent de plus de 29 millions d'euros aujourd'hui, à ces hôpitaux. Quelques décennies plus tard, en 1925, c'est Albert Londres en personne qui publia un ouvrage de la sorte, Chez les fous. À l'inverse de Nellie Bly, il ne parvint cependant pas à se faire passer pour dément. Face à ces tentatives, un psychiatre lui asséna, vous êtes fou de vous croire fou, puisque vous n'êtes pas fou. Est-ce que ma seule folie était en effet d'imaginer que je pourrais embobiner la profession? Et en 2002, le journaliste Hubert Prolongeau parvient quant à lui à se faire hospitaliser anonymement dans un asile de la région parisienne, apportant un éclairage sur certains dysfonctionnements des institutions psychiatriques. Après 4 jours passés à l'hôpital, il dénoncera une société malheureuse, close, disciplinaire, où les « fous » entre guillemets sont laissés à eux-mêmes, où l'enfermement, rarement consenti, est toujours péniblement vécu, où beaucoup de décisions dépendent de plus de la capacité de nuisance du malade que d'un véritable fondement thérapeutique. Fin de citation du journaliste Hubert Prolongeau. L'expérience fut également réalisée à plus grande échelle et selon un protocole scientifique par David Rosenhan. En 1973, le psychologue et 11 complices, tous parfaitement sains d'esprit, se firent interner en hôpital psychiatrique jusqu'à près de 2 mois pour l'un d'entre eux, au terme d'une seule consultation médicale où ils se plaignaient simplement d'entendre des voix. Alors je fais une petite parenthèse parfaitement sain d'esprit, c'est un peu, bon, c'est une expression un peu...
Non mais, par rapport à l'auteur, c'est quand même un désaccord que j'ai ressenti avec le livre, c'est qu'il, en effet, il a quand même cette idée, par exemple, de l'insertion, tu vois, que c'est pas ça qui va les aider à s'insérer dans la société, se réinsérer, il faudrait faire ci et ça, et comme ça, les gens, ils pourraient s'insérer, ils pourraient guérir, etc. Et c'est pas tellement ma façon de voir les choses, mon objectif en général est pas l'insertion, quoi, tu vois. Je serais plutôt sur les positions de De Clare, de l'auteur des Naufragés, sur ce sujet-là.
Voilà. Voilà. Alors, toi qui as lu ce livre, quels sont donc les passages ou les oui qui t'ont interpellé par rapport à toi, à ton vécu, à ta situation?
Ben, c'est par rapport à mon vécu, mais je pense que même si j'avais pas vécu ça, je pense que quelqu'un qui entend ça, il peut que avoir des réactions, même un peu viscérales, si tu veux, par rapport à ça. C'est d'une part le passage que je t'ai lu hier, d'ailleurs, où il est interrogé par un psychiatre, enfin un docteur, quand il arrive dans l'hôpital, et l'attitude chute du docteur est complètement incroyable. D'ailleurs, c'est vrai que ça rappelle, je pense même quelqu'un qui est jamais allé en psychiatrie, ça peut lui rappeler le mépris des mandarins qui peut y avoir, même dans un hôpital ordinaire. Je crois que pratiquement tout le monde a pu vivre ça. C'est un type qui, c'est pas seulement qu'il est, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai, je pense que c'est pas seulement du validisme et du mépris de classe. Je pense que c'est juste que c'est un salopard, je veux dire. Et puis un mec mal poli, il est juste. Et moi, je veux dire, je trouve que par rapport à ce qui peut être demandé de la part de gens qui sont dans une situation de détresse, etc., pour moi, on n'a pas à demander de l'affection, de l'empathie ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui de toute façon, se commande pas et puis qui est facultatif, je trouve. Mais en revanche, un peu de respect, quoi, tu vois. Et c'est des gens qui, on te manque carrément de respect. On te traite comme de la merde et tu demandes pas à ce qu'on t'aime, mais enfin, c'est des gens, tu leur as rien fait du tout à ces gens-là. Pourquoi ils te traitent de cette façon? Tu vois, de façon aussi mal polie. Donc ça m'a interpellée. Et puis l'ennui, les passages aussi, ils parlent de l'ennui. Là, ça, je te l'ai pas mis en marque-page, parce que bon, c'est un truc qui peut se dire comme ça, mais je crois que c'est un truc qui revient toujours par rapport à ce type d'institution. Bah, dans le bouquin de Valérie Valère, encore pire, puisque elle était carrément mise en isolement, une anorexique mise à l'isolation sensorielle, carrément, volontairement, quoi. Mais là, t'en es pas loin. Tu vois, et puis la médication aussi. L'État, heureusement, moi j'ai réussi à empêcher qu'on me donne des médicaments, mais c'est pas faute qu'ils aient essayé. Et le passage où il raconte dans quel état le met ce médicament, j'étais verte.
Je vais lire l'extrait qui correspond un peu à ce que tu dis.
Voilà.
Alors. Seule l'hospitalisation en soins libres m'offrirait une porte de sortie si l'expérience tournait au vinaigre. Mais, même dans ce cas, était-il possible que l'on me force à avaler ces satanés cachets dont on m'avait parlé? Ces fameux psychotropes qui vous transforment en bulot? En théorie, non, mais une exception à la loi m'inquiéta jusqu'au dernier jour de l'immersion. S'il considère que l'état d'un patient se détériore ou que ce dernier représente un danger pour lui-même ou pour autrui, un psychiatre de l'établissement peut tout à fait transformer les, entre guillemets, soins libres en, entre guillemets, soins à la demande d'un tiers. Autrement dit, contraindre le patient à rester hospitalisé sans son consentement et à prendre un traitement. La prise de médicaments pouvait évidemment représenter un danger pour moi. Il m'était arrivé de consommer du Valium à petite dose, voire un peu de Xanax pour calmer des peines de cœur, mais je me doutais bien que ces médicaments prescrits par simple ordonnance étaient loin d'être aussi forts que ceux administrés en hôpital psychiatrique. Je ne me faisais malheureusement guère d'illusions. En cas d'hospitalisation en psychiatrie sous contrainte, dans mon cas si le médecin décidait de me garder contre mon gré, les infirmiers ont pour ordre de surveiller le patient pendant qu'il avale son cachet. Alors, plombé aux anxiolytiques, serais-je en capacité d'être à l'écoute, d'observer, d'écrire? Garderais-je assez de lucidité pour comprendre que l'expérience ne devait pas s'éterniser?
Bah, il explique dans quel état ça le met. Il y voit plus clair. Enfin, c'est le lendemain matin quand il se réveille, il comprend. Il fait pas le rapprochement tout de suite, tellement de toute façon il est dans les choux.
Oui.
Mais il y voit plus clair. Il n'arrive plus à marcher correctement ni à parler correctement.
Oui, oui.
Quand il dit changer en bulot, c'est ça, quoi.
Oui,
en
oui.
fait. Et il s'y attendait pas. Enfin, je veux dire, on l'avertit pas du tout de ce qui va lui arriver. Mais je crois qu'il a réussi à résister les autres fois, parce que de toute façon, son expérience aurait tourné court. Il aurait été absolument incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de rester vraiment à regarder dans le vide sur une chaise. Hein. Je veux dire, c'était pas possible. Et
oui, ça me rappelle un ami à qui je rendais visite en hôpital psychiatrique aussi, qui m'avait dit qu'il venait de subir une injection du psychiatre. Et de risperdal, il me semble, je crois, et que ça lui avait effectivement provoqué ces symptômes-là, c'est-à-dire la vue qui se trouble, il pouvait plus marcher droit.
Voilà, c'est ce qu'il explique aussi.
Proprioception.
Il parlait pas non plus, son élocution était voilà, très affectée oui, aussi. Oui. Ouais.
Donc, effectivement, oui.
Donc.
Alors, peut-être on peut lire un autre extrait, si tu veux.
Ouais, bah, moi j'aurais bien aimé l'entretien avec le psychiatre, si tu veux, c'est celui que je t'ai lu hier, où il se comporte super mal. Et juste pour un petit peu...
Je change de micro, voilà.
Juste un peu pour expliquer, parce que j'ai pas dit dans quel contexte je me suis retrouvée moi-même dans cette situation. Mais j'ai eu un traumatisme très violent. C'est un truc qui m'était jamais arrivé. Je suis pas du tout quelqu'un de dépressif, ni quoi que ce soit, tu vois. Mais j'ai eu un très gros choc traumatique et très malheureusement dans un truc exceptionnel, hein, dans un concours de circonstances où d'habitude je suis toujours avec ma famille, mon compagnon et mes enfants. Et là, malheureusement, j'étais toute seule et donc du coup, je l'ai vraiment pris très très fort. Du coup, j'ai fait une tentative de suicide et sur le coup, j'ai senti après que j'allais remonter, mais je me suis retrouvée à l'hôpital, je crois que c'était au Kremlin-Bicêtre, et j'étais avec un copain qui était là, Laurent rentrait en vitesse et tout, mais il n'était pas encore là, donc il m'a bien témoigné que j'avais pas du tout, on m'avait pas présenté du tout un truc à signer. Le médecin a signé à ma place un truc comme quoi j'étais d'accord avec un protocole, quoi. Mmh. Mais moi, on me l'a pas présenté. Oui. Et le médecin, très gentil au demeurant, me dit ça vous ferait pas du bien de passer un petit peu de temps et tout, comme ça, à l'hôpital, et puis, comme ça, vous pourrez le temps que vous remontiez la pente et tout. Je me suis dit, ça m'évitera de montrer à ma famille ma phase de carême pendant quelques temps, tu vois. Et vraiment, moi, j'ai cru ce qu'il me disait. Enfin, je me suis pas douté. Il m'a juré que je pourrais sortir que dès que ça irait mieux, dès que je voudrais. Je pensais que j'en aurais vraiment pas pour longtemps, vraiment le temps que je sois pas tout le temps en train de chialer et tout ça, quoi, tu vois. Et donc j'ai dit d'accord. Et puis, mais en réalité, à peine j'étais arrivée, qu'ils m'ont tout enlevé et puis qu'ils m'ont fait la surprise que en fait j'étais enfermée, quoi, et quand est-ce que je sortirai, je sais pas, ça c'est le médecin qui décidera, un médecin que tu vois quasiment jamais. Ça aussi c'est dans le bouquin. Tu vois le côté très ouais. c'est une image subliminale, hein, le le médecin, tu me vois plus, hein, c'est vraiment c'est voilà, et encore heureux d'un côté, parce que quand tu le vois, tu regrettes vite de le voir, hein, vu les conneries qui te sortent. Mais c'est surtout que t'as les jetons, tu te dis mais attends, tu repenses à Volodsidani de coucou, tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est vrai, quoi. Donc voilà, et le truc c'est que j'ai beau essayer d'expliquer que c'était, j'ai eu un coup de grisou, mais ça y est, c'est fini. J'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de voir ma famille. Nanana, c'est le protocole, faut voir personne pendant je sais plus combien de jours. Faut voir personne. Mais je dis, mais moi, je sens bien que ça me ferait du bien, moi. Da-da-da, c'est le protocole. Mais tu te dis, c'est Kafka, quoi. Tu vois, je veux dire, voilà. Donc, voilà. Donc, effectivement, j'ai reconnu beaucoup de choses dans cette expérience qui est pourtant pas la mienne. Moi, j'étais avec des jeunes filles anorexiques qui se parlaient pas. En fait, ils m'avaient mise avec, probablement, dans un secteur... probablement des gens qui sont un peu dans l'autodestruction. Je ne sais pas si elles étaient là volontairement ou non, parce qu'elles se parlaient pas, tu vois. Et donc moi je disais que j'aurais préféré. Enfin, il te disait, fais ci, fais ça. Tu vois, par exemple, je disais, là, j'aimerais mieux être toute seule dans ma chambre parce que je sens que j'ai une montée de crise de larmes et tout, et j'ai pas envie de faire subir ça à des gens qui ont l'air déjà un peu pas trop le moral, quoi, tu vois. Et non, c'est mieux. Enfin, il décrétait ça. Il décrétait que il fallait aller voir la télé, tu vois, et il choisissait les programmes pour les gens. Et c'était n'importe quoi, les programmes, tu vois. En plus, je sais pas, comme c'était pour la plupart des jeunes filles, alors c'était des trucs du style un documentaire sur les Didi, des trucs comme ça, quoi. Ouais,
c'est eux qui décident à ta place.
Voilà. Ouais. Et il y avait une bibliothèque où c'était vraiment, les bouquins, c'était vraiment genre ma poubelle les a vomis, j'en ai fait cadeau à l'hôpital, tu vois. C'était des trucs genre l'art de la pêche. Et le truc, vraiment, c'est que tu te fais chier, mais à un point. Mais tu vois, mais c'est, tu te fais vraiment chier. Et les gens avaient l'air de se faire chier, mais je pense qu'ils se faisaient chier. Donc effectivement, tu dis si. les infirmiers avaient pas de, enfin c'était pas grave quoi, tu vois, mais moi j'aurais voulu voir des gens quoi, mais des gens que je connaissais, enfin tu vois, c'est pas, et ils avaient décidé que non, et puis qu'il fallait pas leur téléphoner non plus, que fallait que ça serait mieux comme ça, enfin, et tu te dis mais qui c'est qui, vous pouvez me présenter celui qui a décrété ça, non, tu vois.
Il y a des périodes comme ça où une personne est internée et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on veut essayer de la joindre, eh ben c'est ah non non, en ce moment elle peut pas vous parler, elle est en voilà en soins, enfin elle a besoin de voilà de voir personne, etc. Et donc dans l'autre sens aussi, ils décident de ce que les proches oui ou non ils viennent voir leurs proches à l'hôpital.
Oui, voilà. Donc, c'est puis pas longtemps, c'est entre telle heure et telle heure, et puis tout le monde. Tu vois, moi, j'aurais bien aimé, bah, je veux dire, j'avais plusieurs personnes qui avaient envie de venir me voir, bah, j'aurais bien. Mais non, 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 parce que c'est une heure, de telle heure à telle heure, et tout le monde en même temps, parce que sinon, ben, je veux dire, il n'y en a pas. Enfin, tu vois, et c'est un petit peu bizarre de faire une conférence de presse au milieu de tous tes amis, alors que t'aurais... Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, ce que t'as envie, c'est de pouvoir un petit peu, enfin, bah, avoir un rapport un peu plus personnel. Oui. J'attendais pas ça, ni des psys, ni des, ni des infirmières.
Pas qu'ils viennent tous en même temps, mais plutôt à des mois. Bah oui. Les uns après les autres.
Bah oui, mais. Non, non, c'est telle heure à telle heure, dans une espèce de salle très grande et très impersonnelle, tu sais, avec des chaises d'écolier, et puis t'es là en rond, un peu comme quand on fait des débats, tu vois, c'est un peu bizarre. Et de toute façon, ton avis compte pour du beurre, quoi, si tu veux ça. Ça, c'est vraiment. Mais c'est pas que. C'est pas. J'ai pas eu de chance, hein. À chaque fois que j'ai entendu des témoignages de. C'était comme ça, et puis j'ai bien vu que pour les autres, c'était comme ça aussi. Tu vois, et les trucs qu'il aurait fallu pour que ça se passe mieux, tu t'attends pas. Ça coûterait pas des milliers des cents. Tu vas avoir même effectivement une bibliothèque digne de ce nom, même pourquoi pas une télé dans ta chambre, plutôt que de devoir regarder collectivement un truc ou je sais pas. Tu vois, je veux dire, comme t'as quand t'es à l'hôpital d'ailleurs. Du coup, quand j'étais à l'hôpital, alors faut payer, hein, mais t'as une télé dans ta chambre, quoi. Si t'as une chambre à toi tout seul, t'as du bol, tu vois. Mais c'est ça, quoi, que tu puisses choisir. Mais on t'enlève tout choix, parce que de toute façon, je suppose que c'est plus pratique comme ça, ou c'est le protocole. Je sais même pas pourquoi. Personne prend la peine de t'expliquer. Donc voilà. Donc le passage avec le, juste avec le, psychiatre, je l'ai trouvé assez. Voilà, tu vois, ça commence là. Donc, ils sont dans une salle d'attente. Déjà, ils sont dans une salle d'attente, tu vois, pour pouvoir voir le psychiatre, etc. Enfin, voilà. Donc, le psychiatre... il y a un homme qui est un peu énervé parce que ça fait 17 heures qu'il attend. 17 heures.
Ah oui.
Eux, ils attendent depuis seulement 11 heures. Ça va, quoi. Alors, juste un commentaire, même quand t'es de bonne humeur au départ... T'es un peu le seum au bout d'un moment. Donc là, le truc, là, tu vois, à partir de là, là, quand le psychiatre arrive, tu me diras ce que tu penses de ce personnage.
Vers 3h du matin,
oui, voilà.
Le psychiatre fit enfin son apparition dans la salle d'attente. Il demanda au patient agité, « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'ai eu un petit accident. Je ne m'occupe pas des petits accidents, comme vous dites. » Nous ne saurons pas ce qu'était ce petit accident. L'homme quitta les lieux fou de rage, sans jeter le moindre regard vers Margot et moi. Margot,
C'est sa petite amie.
D'accord. Le psychiatre nous demanda de le suivre dans un minuscule bureau dont l'ampoule principale grésillait. Son teint plus que hâlé, de longs cheveux gris brossés vers l'arrière et une barbe mal taillée lui donnaient des airs de Didier Raoul, qui se serait endormi dans un solarium. Il n'est sans doute pas très malin de juger un homme à son apparence, mais celui-ci m'exaspéra dès la seconde où je le vis. La manière dont il avait éconduit mon acolyte ne jouait pas en sa faveur, et je crois que la suite donna raison à mes intuitions. De longues secondes passèrent sans un bruit alors qu'il pianotait sur son téléphone tout en grimaçant régulièrement. Il semblait contrarié. Je regardais Margot d'un air incrédule qui signifiait « Que fait-on maintenant ?» ou « A-t-il compris qu'on se trouvait devant lui ?» Le médecin de garde alluma non sans mal son ordinateur et je pus enfin lui exposer ma situation. Jeudi, mon psychiatre m'a conseillé de me faire interner d'urgence parce que j'entends des voix et « D'urgence ? Et vous y allez 4 jours plus tard ?» dit-il d'une voix aussi chaleureuse que la morne salle d'attente où nous venions de passer 11 heures. J'ai pris peur. La peur n'avait pas été si présente pendant ces quelques jours. En revanche, l'envie de tirer un trait sur ce projet m'avait effectivement effleuré l'esprit. Je continuais. Mon psychiatre, docteur 111, a écrit une lettre que je peux vous donner. Je pense qu'il résume bien la situation. J'ai travaillé avec le docteur 111. C'est une femme blonde avec une belle poitrine, n'est-ce pas ? Tentait-il de me tendre un piège ou était-il demeuré et libidineux ? Non, c'est un homme, répondis-je. Oui, je le sais. Il a écrit une lettre, je peux vous la donner ? Je n'avais aucune envie de recommencer le sketch de la semaine précédente. Toujours les yeux rivés sur son écran, il répliqua. Vous imaginez bien que je ne vais pas faire tout le boulot, donc vous allez me la lire et on verra ce qu'on en fait. Je rentrais à nouveau dans mon rôle, sous le regard éberlué de Margot. Le docteur tapotait sur son vieux clavier tel un policier enregistrant une plainte avec ses 2 index. Et d'une lenteur abyssale, les rétines quasiment collées à l'écran, marmonnant quelques questions stupides adressées à lui-même, du type « Putain, mais comment on fait pour supprimer un mot sur cet ordinateur ?» ou encore « Mais il est passé où le truc là, le curseur de la souris ?» Il s'adressa ensuite à moi. « Psychose aiguë, c'est-à-dire ? Comportement bizarre, ça veut dire quoi ?» Je me retins de lui dire que je n'en savais rien et que c'était lui le psychiatre, bon sang, à moins qu'il ne soit comme moi un usurpateur. Je tentais de l'amadouer en lui disant que j'étais fatigué, ce qui n'était pas totalement faux, même si je n'étais jamais le plus à plaindre dans cette histoire. J'eus le droit à un raffiné « Ben voyons, et pourquoi vous êtes fatigué ?» auquel je ne pris pas la peine de répondre. Je compris ensuite que mon profil était apparu dans sa base de données et qu'il découvrait la raison de ma présence aux urgences il y a quelques années puisqu'il me demanda d'un air sournois « Je vois que vous avez porté atteinte à votre intégrité en août 2016. Ça vous dit quelque chose ?» Bien sûr que cela me disait quelque chose. Une histoire d'amour qui avait mal fini et un jeune homme stupide qui avait eu la bonne idée de se briser un verre sur le front dans l'espoir de faire comprendre à sa copine de l'époque qu'il l'aimait vraiment. Si certains en doutaient encore, qu'ils sachent que cette stratégie est contre-productive, en plus d'être dangereuse. Si j'étais à l'époque ressorti de l'hôpital quelques heures et point de suture plus tard, avec bien peu de fierté et à mes côtés une mère bouleversée, je n'oublierai jamais ce que le psychiatre de l'établissement, j'avais eu besoin de son autorisation pour quitter les urgences comme le coutume le veut après un tel acte, m'avait dit. « Je ne vous garde pas plus longtemps ici. Entre nous, Alexandre, par amour, j'aurais pu faire la même chose. » Je n'ai jamais revu cette fille, ni ce psychiatre d'ailleurs, et n'avais plus songé une seule seconde à me mettre en danger. J'éludais par un laconique « Oui, peut-être » à la question « Cela vous dit quelque chose ?» Fort heureusement, le psychiatre n'insista pas. Margot sembla comprendre que mon passé m'appartenait et elle respecta mon mutisme. Le médecin imprima une feuille qu'il rangea dans un dossier rouge portant mon nom avant de nous demander s'il y avait quelqu'un d'autre à hospitaliser. Margot ne put se retenir de lui répondre avec un sublime aplomb. « C'est une plaisanterie, j'espère. » Il fronça le sourcil gauche et se mordilla la lèvre. Ce n'était pas une plaisanterie. Il nous toisa et nous congédia sans la moindre marque de politesse.
Ouais, voilà. Et à part ça, Laurent a raconté aussi quelque chose de similaire. Il accompagnait un copain ou une copine, je ne sais plus, qui avait demandé à se faire hospitaliser. Et le psychiatre a commencé à le cuisiner dans l'espoir de pouvoir faire du chiffre. Peut-être, je ne sais pas pourquoi il se jette comme ça sur. Ou même peut-être qu'il se dit que quelqu'un qui fréquente quelqu'un comme ça ne doit pas être très très net lui-même, je ne sais pas. Alors donc, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ce passage et de ce personnage ? Tu penses que c'est qu'il n'a pas eu de chance ou que c'est plutôt assez courant de tomber sur des gens comme ça ?
Moi, personnellement, j'ai pas eu. Non, mais. J'ai jamais été face à un psychiatre.
Enfin, tu as entendu des témoignages. J'imagine que ça revient souvent, le côté malpoli, comme ça.
Oui, oui. En fait, on constate la position. En fait, peut-être dans des documentaires, on a pu voir cette espèce de désinvolture du psychiatre face aux malheureux et aux gens qui souffrent, quoi. Une espèce de désinvolture, la tendance à plaisanter, quelque chose, un détachement, quoi, comme ça. Effectivement, on ne demande pas non plus une empathie complètement fusionnelle avec les personnes psychiatrisées, mais là, c'est...
Moi, je trouve que c'est le manque de respect.
Là, vraiment, oui.
C'est... Voilà, par exemple, le côté, tu parles même pas à quelqu'un qui est en face de toi, qui vient d'attendre quand même 11 heures, c'est quand même pas mal. Et tu lui parles même pas, tu es sur ton ordinateur, sur ton portable, sans lui adresser la parole, pas de bonjour, pas de revoir. Enfin, tu vois, tu dis, c'est juste normalement un peu de respect, quoi. Moi, je veux dire, je demandais pas d'empathie, mais à la limite aussi, tout le côté, tu vois, moi, par exemple, avec la psy que j'avais vue quand j'étais hospitalisée, je me suis dit, j'avais envie de parler un peu. Donc, si tu veux, quand même tendais la perche, je me dis, tiens, je vais lui parler. Mais comme chaque fois que j'ai été confrontée à des, enfin, comme dans mon enfance ou avec des proches ou, tu vois, je suis toujours surprise de la nullité de ces gens, quoi. Tu vois, c'est quand même, comme je t'avais dit une autre fois, par rapport à Valérie Valère, tu dis c'est quand même leur boulot, ils pourraient avoir un peu de psychologie à défaut de pouvoir te guérir, ce que tu leur demandes pas d'ailleurs, mais tu vois, ils vont te faire surtout des diagnostics à emporte-pièce où on a l'impression qu'ils jouent au cluedo, tu vois, ça y est, j'ai trouvé la solution de l'énigme, et puis du coup il faudrait que... Ah, mais c'était donc ça, mais bon sang, mais c'est bien sûr, donc c'était pour ça, avec cette idée que du moment que t'as compris je ne sais tu vois, par exemple, les lacaniens, l'idée de... Je pense que celle à qui j'ai eu affaire était une lacanienne, parce que, comme elle m'a demandé des renseignements sur mes parents, que j'ai dit que mon père était militaire de carrière, et comme j'ai dit que par ailleurs j'étais militante, et bien évidemment j'ai eu droit, le truc habituel, quoi. Militant-militaire, vous êtes militante parce que votre père était militaire. Alors, j'ai dit, ça a quand même pas grand chose à voir. Mon père torturait des gens en Indochine et tout. Moi, c'est pas mon idée, c'est de me battre, de lutter pour la justice sociale. On peut avoir des raisons pas du tout névrotiques, parce qu'elle considérait le militantisme comme une névrose, si tu veux. Donc, on peut avoir des raisons pas névrotiques de vouloir se battre contre les injustices tout de même. Tu vois, donc, ça y est, elle avait identifié mon problème, quoi. Toi, c'est super.
Ouais, il se soucie moins. Voilà, c'est ça, pour revenir au psychiatre, il se soucie moins d'un objectif de rétablissement que d'avoir ce rôle de protéger la société contre ces déviants, en fait, au niveau de leur fonction.
Je sais pas ce qui, honnêtement, je comprends pas ce qu'ils ont dans la tête. Sérieusement, pour moi, c'est assez mystérieux. Des gens, j'ai une impression d'altérité. Je sais pas du tout quels peuvent être leurs mobiles, quoi.
Si je repense à ce que je disais au début de l'émission, de l'extrait de À en devenir fou de Alexandre Massé-Dubois, le journaliste Hubert Prolongeau, qui se fait hospitaliser dans un asile de la région parisienne, et qui commente en disant une société malheureuse, close, disciplinaire, où les fous sont laissés à eux-mêmes, où l'enfermement rarement consenti est toujours péniblement vécu, où beaucoup de décisions dépendent plus de la capacité de nuisance du malade que d'un véritable fondement thérapeutique. Et j'ai l'impression que c'est l'institution elle-même qui est vraiment comme ça, quoi. Qui n'a de fonction thérapeutique qu'en façade, mais qui au fond est une institution de sécuritaire, en fait,
Oui, mais il y a aussi, tu vois, la notion de normalité, au fond. Tu vois, parce que je t'avais parlé de Janoff qui fait tout un chapitre sur la normalité. C'est, enfin, on en parlera une autre fois de tous les méfaits de la thérapie primale, quoi. Non. Mais il fait tout un chapitre sur la normalité et qui comprend le fait qu'il faut pas être homosexuel. Donc là, je pose la question, doit-on guérir de l'homosexualité ? Bon, enfin, c'est une question rhétorique, tu t'en doutes. Mais voilà, toi, tu te dis, au fond, que t'as un mauvais passage et que tu demandes à te mettre au vert, bah, tu demandes d'être dans un endroit un peu cosy où tu vas pouvoir un peu te reposer. Je demandais pas à ce qu'on me soigne, comment dire, ontologiquement ou je sais pas quoi. Et je sais pas pourquoi elle s'était mise en tête de me guérir de mon militantisme, par exemple, tu vois. Mais d'ailleurs, c'était pas un désir très profond, parce qu'en fait, tu les vois quasiment pas. Ils en ont, j'ai l'impression, quand même pas grand chose à foutre des gens, quoi, tu vois. Là, tu vois ce psychiatre, là, que dont il est question, t'as pas l'impression qu'il est animé par quoi que ce soit d'autre que. Je sais même pas quoi, d'ailleurs, tu vois. Je sais même pas quoi. Et en réalité, l'idée même de soins, il y a des fois où. Enfin, je sais que Valérie Valère disait qu'elle demandait pas à être soignée, et ça laisse un peu. Bah, tu te dis, après tout, elle voulait pas vivre. Mais comme disait, enfin, après tout, est-ce que on doit avoir une, enfin, tu vois, l'obliger, enfin, tu vois, elle s'est suicidée de toute façon quand il tient beaucoup, tu vois. Mais en même temps, il y a aussi des situations où tu te dis, est-ce que c'est normal de flipper quand tu as un choc traumatique, par exemple, tu vois. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je devais être soignée? Je demandais pas, moi, ça. Il m'avait pas proposé ça d'ailleurs, il m'avait dit, voulez-vous être dans un endroit où vous allez pouvoir un peu vous mettre, vous reposer, souffler un petit peu, etc. C'est tout ce que je voulais, moi j'ai rien demandé d'autre. Et t'as des gens qui peut-être, je vois mon frère qui est schizophrène assez grave, ben il tombe assez dans ce que peut désigner De Clercq par rapport au clochard, puisqu'il a été clochard aussi. Enfin, il a une licence de philo, c'était un surdoué, c'est quelqu'un de très intelligent, mon frère. Mais la communication avec lui est très difficile. Mais le truc, c'est que il demande pas à être soigné. Des fois, il a besoin, s'il flippe de trop, qu'on lui donne des médicaments pour que ça aille mieux quand il est en crise. Et puis après, il veut s'en aller. Et puis après, des fois, il veut revenir. Moi, je pense qu'il faut juste s'adapter à ce qu'il demande. Tu vois, mais ça, il n'est pas question. Ils ont une meilleure idée de toi, de ce que tu dois être et de ce que tu dois faire. Voilà.
Oui, alors que ces notions de rétablissement ou de soigner ou sont des notions mal définies, en fin de compte.
Je sais pas ce que c'est dans leur tête. En tout cas, même quand tu leur demandes pas, ils pensent qu'il faut te soigner. Oui. Janoff pensait qu'il fallait soigner les homosexuels. Voilà.
Donc les remettre à la normale, en fait.
Voilà.
Soigner, ça peut être aussi réinsérer. Ou,
oui, voilà. T'aimes pas le travail. J'ai vu des enfants qui faisaient l'école buissonnière et c'était considéré comme une névrose, quoi. Comment peut-on ne pas être enchanté à l'idée de s'emmerder toute la journée à l'école? C'est bizarre, quand même, pour faire quelque chose.
Oui, alors ça porte des noms, d'ailleurs. C'est TDAH ou des choses comme ça. C'est
trop beau. Je crois qu'il y a des. Voilà, on les met sous Ritaline ou je sais pas quoi. Un petit morceau de musique, peut-être. C'est quoi que tu nous as concocté comme musique?
Alors là, je propose. Mycélium. Mycélium.
Maintenant. Une chanson à propos de la maniaco-dépression. Qui est fou? Qui est normal? Qui décide?
C'est un asile de fous ici. Je ne suis pas fou.
En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment fous ici. Je dis pas que toi, tu l'es pas. Je dirais même que t'as l'air carrément déjanté. Mais c'est pas pour ça que t'es ici. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que t'es ici. C'est uniquement à cause du système.
Le système qui t'a créé pour travailler, marcher au pas, et si tu vas pas droit, tu te feras juger.
Thank you. Paris est marchique. Ordonne de me soumettre. Mais je n'en fais qu'à ma tête, car je n'écoute plus vos discours psychotiques. Je pense au système, plus je déprime. Si ça continue, il va me juger et m'enfermer dans une camisole chimique.
Ils ont dû te filer plein de calmants, hein? Des drogues.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. On vient d'entendre Mycélium psychomaniaco-dépressif. Et on est en train, alors Sylvie et moi, de parler de À en devenir fou, le livre d'Alexandre Massé-Dubois, Dans la peau d'un schizophrène, est le sous-titre. Donc Alexandre Massé-Dubois, qui est un journaliste qui s'est infiltré en hôpital psychiatrique pour faire ce reportage témoignage. Et voici donc un autre extrait de son livre. Le visage trempé et la gorge inondée d'une eau tiède, je crus l'espace d'un instant avoir retrouvé mes esprits et ma salive, mais dès que je tentais de me lever et de marcher vers la porte de ma chambre, je chancelais à nouveau. Je finis par m'écrouler sur le lit, dans la seule position qui ne me faisait pas tanguer. Était-il possible que l'on m'ait drogué à mon insu ? Il me fallut de longues minutes pour faire le lien entre mon état et le comprimé de tertian avalé avant de me coucher. Je restais à végéter, sur et sous mes draps, alternant entre bouffées de chaleur et tremblements de froid, le cœur battant, les yeux rivés vers le plafond sur lequel des formes apparaissaient et disparaissaient. Certains ont déjà eu affaire, comme moi, au corps flottant, appelé aussi myodésopsie, ces espèces de filaments transparents que l'on pense voir voleter devant nos yeux et qui peuvent s'accompagner de flashs lumineux. Ils sont souvent dus au stress ou à la fatigue, voire, je l'appris plus tard, à la déshydratation. Devant mes yeux, ce matin-là, ce n'était pas un petit filament qui se trimbalait gentiment, mais une assemblée, que dis-je, une cohue de filaments, de minuscules serpentins gris et blancs qui virevoltaient partout autour de moi. Je ne pouvais pas rester dans cet état léthargique. Je me souvins que je n'avais avalé qu'une bouchée de bouillie la veille lors du, entre guillemets, dîner. Bien que somnolent et les yeux mi-clos, je parvins à me mettre en route vers la cantine. Un revêtement jaune similaire à celui de ma chambre recouvrait le sol des deux couloirs parallèles qui composaient notre étage. Il y en avait quatre dans l'immeuble. Chacune des 35 chambres donnait sur le même couloir et les patients quittaient au matin leurs cellules comme un seul être, de façon presque synchronisée. Une chorégraphie carcérale. Cela me faisait penser au défilé du 14 juillet. Un cortège commençait à se former à côté du bureau des infirmiers. Chaque patient y attendait docilement son traitement. Personne ne semblait rechigner à engloutir ces pilules si puissantes. « Bonjour, je suis la chambre 312 », disait l'un. « Voici votre traitement », répondait un infirmier. La distribution se déroulait avec un automatisme déconcertant. « Moi, c'est la chambre 303, voici votre traitement. »« Chambre 325, votre traitement. »« 319, traitement. » Les numéros 312, 303, 325, 305, 319 et 321 se ruèrent ensuite vers le réfectoire, me laissant imaginer que les repas étaient bons. Rassemblés à l'entrée de la cantine, nous avons ensuite patienté un long moment. Je comprendrai bientôt que les minutes ici avaient valeur d'heure. Certains se saluaient poliment, d'autres collaient leur nez sur la vitre de la salle où serait servi le petit déjeuner. Le petit déjeuner était plus que sommaire, composé d'un bout de pain industriel, d'un chocolat chaud tiède, ou d'un café et d'un jus d'orange.
Oui, ben, par rapport aux médicaments, justement, à ce sujet-là, donc j'ai dit tout à l'heure que j'avais refusé le traitement, mais là encore, il y a un côté où on vit à la fois dans l'ennui, mais aussi un peu dans la peur, parce que je voulais refuser le traitement, faut que je t'ai, pour ceux qui ne le savent pas, je suis adepte de la rien-thérapie, c'est-à-dire que, sauf cas extrême, je fais rien. J'ai horreur de l'idée de prendre des médicaments, d'autant plus que on m'a forcé à en prendre quand j'étais adolescente, puisque ma mère pensait que, ayant lu que je m'intéressais un peu trop aux garçons, qu'il fallait me soigner de ça, tu vois, quand je te dis de quoi faut-il vous guérir. Bon, mais là, vraiment l'idée de prendre des médicaments que je savais même pas ce que c'était et que je me méfiais carrément, et puis on m'avait pas prévenu de ça non plus, tu vois, il me dit ah mais si, c'est le protocole, enfin ils avaient que ça à la bouche, tu vois. Mais là où t'as peur, c'est que tu te dis il faut que je refuse ce médicament, mais de façon, si jamais je le refuse un petit peu trop, de façon un peu trop extravertie, je me dis, est-ce qu'ils vont me fourrer un entonnoir dans la bouche? Tu m'as pas dit qu'à une époque, on te mettait carrément un écarteur dans la bouche pour fourrer les...
C'était au 19e siècle, c'était les techniques des aliénistes. Là, c'est des choses qu'on a lues dans La raison du plus fort de Bernard de Fréminville, tout un livre sur la psychiatrie aliéniste, dont on avait fait.
Mais je crois que c'est Nicolas émissions. Qui m'a raconté qu'il y a des nouveaux systèmes où on peut voir si tu avales vraiment, enfin, tu as une sorte de traceur qui montre si ton médicament tu l'as vraiment pris ou si t'es débrouillé pour le planquer sous ta langue. Enfin,
on va peut-être glisser vers un aliénisme high-tech dans les années qui viennent.
Je veux dire, je sais pas si c'est mieux ou pire que les électrochocs et la lobotomie, hein, dans le fond. Tu vois, je veux dire, c'est vrai que il y a toujours, dès que tu part de l'idée que tu vas faire le bien des gens comme ça contre leur gré, ça peut ouvrir la porte à toutes sortes de dérives, que ce soit avec l'aide de la technologie ou pas, quoi. Tu vois, je veux dire, en effet, c'est assez sommaire, l'écarteur de bouche, mais ça doit bien marcher, hein, finalement. La contention, oui, parce que tu as déjà fait des émissions là-dessus, c'est assez vieux, de la contention.
On imagine aussi qu'il y avait quelques accidents qui pouvaient arriver, même par exemple avec cet appareil qu'utilisaient les aliénistes pour forcer.
Évidemment. Oui, c'est mieux
des décès quand même.
De bien faire. Oui. Mais j'ai eu peur quand même, parce que je me suis dit, il faut que. Parce que tu te dis tout du long, si quand j'ai compris qu'il ne me relâcherait pas si facilement. Tu fais attention d'être toujours très, tu vois. Et au moment d'ailleurs où on voit dans le bouquin, il explique à quel point il a peur il va passer son entretien. Et d'ailleurs, il a beaucoup de mal à mettre la main sur le médecin, alors que c'est très important pour lui de sortir de là, quoi. Et je me suis dit, vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit, elle va pas me relâcher. Elle m'a fait jurer que j'irai voir un psychiatre dès que je sortirai, ce que j'ai pas fait, tu t'en doutes. Mais je lui ai juré et tout. Mais j'avais peur. Je me suis dit, si ça se trouve, ils vont m'envoyer des sbires pour vérifier que je suis bien allée chez le psychiatre. Enfin, t'as une telle impression de coercition que tu te demandes jusqu'où ça peut aller, quoi. Tu vois, vraiment, ils ont un tel pouvoir. T'es enfermé, t'es non seulement en prison, mais tu te sens à la totale merci de l'arbitraire, comme ça, de quelqu'un que tu estimes être un peu stupide. Enfin, je veux dire, les conneries qu'elle me sortait sur militants militaires, ou tu vois, ou le côté, les trucs qu'elle me disait en général, je trouvais ça pas malin, quoi. Et je me disais, ben, je suis dans ses pattes, quoi. Ça dépendra de... Il faut vraiment que, tu vois, que je la joue fine, on va dire. Mais j'étais pas sûre de faire comme il faut non plus, tu vois. Donc c'est assez effrayant, en fait. Voilà.
Et est-ce que à ce moment-là, tu aspirais à... Enfin, disons, si on Est-ce que tu imaginais qu'on pouvait te proposer une autre forme de psychothérapie que celle que...
Non, je n'y aspirais pas du tout, je n'ai rien demandé. Ouais. Et je... Non. Non, non, c'était vraiment parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est comme un accident de la vie, tu vois, tu te dis, à tout le monde c'est arrivé d'avoir un moment où même à la limite tu te dis pour passer ce cap-là, il faut que je me mette un peu au vert, que tu vois, et puis c'est tout quoi. Et après j'ai remonté la pente, j'ai une certaine résilience quand même, tu vois, comme je te dis, je suis pas dépressive à la base.
Voilà, c'est-à-dire que...
Donc voilà, non, j'ai rien demandé, j'avais besoin de rien. Là, et puis je me méfie beaucoup des psychothérapies depuis que j'ai dû en faire une de force sous prétexte que je m'intéressais aux gars quand j'avais 15 ans, tu vois. Je m'en méfie terriblement, j'ai pas du tout envie. J'y crois pas et puis j'en avais pas besoin, c'est tout.
Voilà. Voilà. Par exemple, concernant la dépression, est-ce qu'on est ontologiquement dépressif? Quand on est dépressif, ben c'est pas certain, c'est juste peut-être un passage.
Ça peut être, voilà. Oui, j'ai eu dans le passé, ça m'est arrivé d'avoir un passage dépressif. Et puis, en ce qui me concerne, il y a des gens qui ressentent peut-être un besoin. Mais là, j'en ressentais pas. Et on m'a pas, encore une fois, il n'était pas question de mon avis. Si tu veux, c'est... Or, moi, vraiment, j'ai cette idée que, même pour mon frère, il demande pas, d'ailleurs, à pouvoir parler à quelqu'un. Il demande des médicaments quand il a très peur, parce qu'il a des crises de peur, quoi, tu vois. Et puis, quand ça va mieux, il demande rien. Il s'en va. Il demande pas être... Il a jamais demandé à être inséré. Des tantes lui procurer un logement, il en voulait pas. Il voulait pas d'un boulot non plus. Et t'as pas à avoir un avis sur ce qu'il demande lui, c'est, tu vois, enfin moi je le vois comme ça, et moi j'aurais bien aimé qu'il me foute un peu la paix et puis c'est tout quoi, tu vois, je veux dire, on m'avait vendu juste quasiment une maison de repos, enfin tu vois, un truc où tu vas et puis ouf, tu te reposes un peu.
Où tes droits seraient respectés?
Parce que j'ai même pas demandé, parce que j'aurais trouvé mal poli de demander du don. J'espère que vous allez pas me traiter comme de la merde, parce que j'imaginais pas que ce soit le cas, tu vois, qu'on allait me traiter comme de la merde. Voilà.
Oui. Donc à ce moment-là, c'est une infériorisation qui est faite des personnes.
Même la négation, je dirais.
Oui.
T'es pas une personne.
Oui.
C'est le protocole, ça sera bien pour toi, c'est comme ça qu'on fait, on a un avis sur toi, même quand tu dis non, mais moi je vois pas ça comme ça, si, c'est comme ça que tu es. Enfin, tu vois, t'as pas, c'est même plus que de l'infériorisation, c'est vraiment de la négation. Enfin, le sentiment que tu n'existes pas comme individu, comme personne. Voilà.
On peut terminer là-dessus, si tu veux. Merci d'être passé à l'entonnoir, Sylvie, et puis d'avoir discuté un peu, d'avoir commenté avec moi le livre « À en devenir fou » dans la peau d'un schizophrène de Alexandre Massé-Dubois, récit d'un journaliste infiltré en hôpital psychiatrique aux éditions Phébus, et qui vient donc de sortir en octobre 2023. Le prix, 19 euros.
Voilà.
Et c'est tout pour aujourd'hui, et nous vous disons à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
J'ai rarement eu la chance pour partenaire. Je finirai sûrement pas entouré de centenaires. Certains de partir au trou pour un télé mineur. Les pleurs à la naissance ne sont qu'un préliminaire. Et si nos vies sont vides de sens, c'est que nos désirs se résument un putain de bidon d'essence. Une allumette, une étincelle, et que la France brûle comme à Vincennes. C'est toujours une histoire d'émeutes de classe, d'animal blessé, d'encristé, de guerre lasse, de regard baissé. Reste à ta place ici, ce qu'on nous impose, ça pue le système biaisé. À court terme, tous parqués au jetar, je suis pas claustro par hasard. Et si on s'est marqué au corps, c'est pour oublier que nos vies leur appartiennent. Rien ne sert de mentir sur le score, leur putain de peine ne cesse d'augmenter. Ce monde nous fait malade ou criminel, ils nous enferment, nous infirmes. Nous on avance comme sur un fil. Incarcéré potentiel, les pieds sanglés dans ce putain de sol. 29 berges, j'ai si peu de rêves. Des magouilles, des petits bises, à mesure que l'ennui me crève. Mon horizon, ça me nuise, il paraît. Notre mode de vie les importune. C'est sûr, au bout du chemin, y'aura pas la fortune. On vit à l'ombre de leur soleil vert, sous les spots de la lune, dans ce début d'un époque. Tout est stérile et sous contrôle, ok. Dis-leur bien qu'on sait ce qu'ils trament. La réponse sera à la hauteur du drame. Trop de larmes sous les capuches, d'eau, ça les verser. Et si on noie la colère au fond d'un verre, c'est pour pas péter les plombs, voir la violence percée. Ma jeunesse insouciante est morte bien avant terme. Tristesse et cicatrices dissimulées sous l'épiderme. Tous les jours, l'impression d'éviter le pire. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euro dans les poches, plus de youvois, moins de keuf, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euro dans les poches, plus de youvois, moins de keuf, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches.
Moi, je garde les ronces pour carburant, je reste du côté de ceux qui ont si peu à perdre. Des incendiaires qu'on incarcère et qui font pas les couvertures de leurs journaux de merde. Des vrais encristés, de ce qu'ils osent appeler une crise. Des sacrifiés sur l'autel de leur putain d'escroquerie. Pour une enfleur qui s'auto-supprime à Wall Street, dis-moi combien des nôtres qui s'accrochent à la poutre sans se rater. Où sont pendant de sales paradis, la déprime du seul partenaire. En haut lieu, bah ça se plaint, mais rassure-toi, ça croque encore et ça restructure. En bas, je t'apprends rien, ça canne un petit feu. Appelle ça caricature, mais putain, ça crève les yeux. Alors c'est ça, chacun sa cam, chacun sa cage, sa petite cachette, son élixir. Comme ça qu'on te baise à l'usure, c'est pas la guerre soi-disant. Alors pourquoi les cachots craquent, pourquoi nos vies ont ce goût de chiotte, hein. La peste des flicards et ne presse pas la gâcher. Moi je garde, tenace mes fantasmes, cramer le buisson qui camoufle ta forêt de classe. Arracher des bouts de vrais, des bribes de rêve dans la matrice avant la tombe, briser leur glace en teint. Pour ça mon tour de combattant, j'ai pas le goût du sacrifice moi. Ni bourreau ni martyr et tout l'inverse d'un artiste. Et me dis pas que je suis pas à plaindre. Je la connais bien, ta vieille rengaine du genre qui te paralyse. De la zone grise à la zone libre, y'a qu'un pas en pied. Ce qui te sépare du précipice, de ceux qu'on dépasse pas, seul mais à plein.
Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euros dans les poches, plus de youvois, moins de keuf, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euros dans les poches, plus de yeux, moins de queue, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches.
La prison tue, alors c'est crève la tôle.
Le taf nous tue, alors c'est crève la tôle.
L'HP nous tue, alors c'est crève la tôle.
La prison tue, alors c'est crève. La tôle, crève, la tôle, crève, la tôle.
Du chagrin, famélique catin aux yeux de l'innocence, la rage que je t'immole aujourd'hui à la force des alphabets rougis sur ma peau de chagrin forme mille drapeaux que mon âme dégorge. Tu m'as fait les mains de l'ennui, des mains à vêtir la chimère. Tu m'as fait les mains du silence, des mains à trancher le hasard. Et j'ai joué à Colin Maillard pour me cogner à ton absence. Tu m'as fait les mains de la haine, quand il soufflait sur ton corsage le vent de la miséricorde. Comme un pendu au bout de ma corde, je balançais. Quand il soufflait sur nos voyages le vent de la désespérance. Comme un pendu sur ma potence, je desséchais. Et quand il a soufflé l'amour au voile de ton beau navire, afin que nul ne puisse en rire, pourquoi ne t'ai-je donc pas tué?
De ces guerres lointaines, quand le soldat revint, se mit à la fontaine, au bout de mon jardin. Si ma mémoire est bonne, je ne suis sûr de rien. C'était un jour d'automne, hier ou bien demain. Tous les gens du village s'approchèrent de lui. Le patron du garage lui dit, tu as vieilli. Devant sa pauvre mine et son habit râpé, les gamins, les gamines ont couru se cacher. Il dit, une lumière a disparu en moi. Ce que l'on m'a fait faire, je n'en parlerai pas. Je vous vois sur la place comme des étrangers. Est-ce le temps qui passe ou moi qui ai changé? Vous dites que ma mère, mais je n'en ai rien su. J'irai au cimetière pour un dernier salut. Ainsi s'écrit l'histoire, on se bat tant et plus. On fait de la victoire et l'on a tout perdu. Elle habite à la ville, celle qui m'avait dit, tu peux partir tranquille,